Bonjour à tous. Vous avez bien commencé avec notre Seigneur la nouvelle année 2014, dans la joie et dans la paix. Amen. Le thème de notre église pour cette année 2014, c'est connaître Dieu. Donc connaître Dieu consiste à connaître les caractères de Dieu, son amour, sa volonté, etc. Et la sainteté fait partie de un de ces caractères. Quand je pense méditer sur la sainteté de Dieu, je ne peux pas m'en empêcher de penser à notre monde actuel, qu'il n'y a plus de vérité absolue. Les morales, les valeurs morales ne sont plus respectées. Je pense à la garder, respecter la virginité avant le mariage, respecter le mariage, la fidélité entre les époux, l'honnêteté, s'occuper des parents qui sont devenus vieux et dépendants. Tout ça, ce n'est plus à la mode, on va dire. Donc, il y a beaucoup, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de divorces, de... Pareil, respecter la vie intra-utérine d'un enfant qui est dans le ventre de la mère encore. Donc, il y a beaucoup de divorces, beaucoup d'IVG, beaucoup de personnes âgées laissées abandonnées dans les maisons de retraite, mourir mourir doucement dans l'oubli et tout ça des enfants. Tout ça, c'est le monde actuel. Le monde est en progrès, mais la relation entre les personnes, il me semble, c'est de plus en plus éloigné. Nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, notre conduite doit refléter la sainteté de notre Père. C'est pour cela que j'ai choisi de parler avec vous le passage de Pierre sur la sainteté. Je vais revenir un peu sur l'époque, le contexte. La première fois que je voulais prêcher, c'était sur aussi un Pierre. À l'époque, c'était dans le premier siècle, l'année 50, 60 avant, après Jésus-Christ. Pierre a écrit cette épître à des chrétiens de son époque qui vivaient sous l'Empire romain, qui étaient persécutés à cause de leur foi. Donc Pierre leur a présenté, leur rappelé que leur foi n'est pas vaine. Ils ont une espérance vivante, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ils auront comme héritage réservé pour eux dans le ciel, qui ne peut pas se perdre ni se souiller, et que vraiment ils vont voir le Seigneur face à face, et tous ils ont obtenu le salut de leur âme au moyen de leur foi. Après tout cet enseignement théologique, Pierre revient pour leur parler l'application pratique, donc leur demander de vivre la sanctification, vivre dans la sainteté. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pourquoi ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc pour ce passage, je vais vous parler sur trois chapitres. Le premier, c'est sur la sainteté. Dieu est saint. J'ai lu dans la Bible la première fois que le mot saint apparaît dans la Bible, c'est dans Exode 3, 5, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent, quand Moïse voulait rapprocher de ce buisson, Dieu a dit, ne t'approche pas ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. La terre est sainte parce qu'il y a la présence d'un Dieu qui est saint, qui rend la terre sainte. Donc c'est le premier verset saint qui est apparu dans la Bible. Et le verset que Pierre a utilisé, vous serez saints car moi, Éternel, je suis saint. C'est dans Lévitique 11, 44. Alors qu'est-ce que ça veut dire saint? Saint, c'est mis à part, être unique, être différent. Et moi j'ajouterais, c'est sans péché. Que je pense à la sainteté de Dieu, c'est vraiment, il n'a pas de péché. Quand on parlait de Jésus qui est sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tache, c'est vraiment, je comprends comme c'est vraiment la sainteté. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu Dieu a choisi le peuple d'Israël, il les a formés pour qu'ils deviennent un peuple distinct des autres peuples. Et pour faire partie du peuple de Dieu, il doit refléter la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu leur a donné un code de conduite morale qui est beaucoup plus élevé que les autres païens. À l'époque, les autres peuples, ils adoraient beaucoup d'idoles, ils pratiquaient des choses, des coutumes immorales. Donc, pour qu'ils soient distincts, différents des autres peuples, Dieu est vraiment obligé de leur donner un code de conduite. Surtout, ils sortaient de l'esclavage d'Égypte, où l'Égypte adorait plein de dieux, plein d'idoles. Donc, Dieu leur a donné des lois, des règles, des restrictions pour les mettre à part. Il y a ces règles concernent trois domaines. Premier domaine, le domaine spirituel. Ça fait partie des quatre premiers commandements sur les 10. Surtout rendre un culte, adoration à Dieu, exclusif. Ça change des autres peuples qui ont de nombreux idoles, de nombreux dieux. Mais Dieu a dit vraiment, il est un Dieu jaloux, il ne tolère aucun rival. Donc, adoration exclusive à Dieu vivant, réel et véritable. C'est le premier commandement. Donc, exclut toutes les autres adorations. Il les interdit de fabriquer des statues, des formes avec les mains d'hommes pour les adorer. De nos jours, les idoles sont devenues invisibles. Donc, faites attention, regardez, examinez chacun, est-ce qu'on a un idole qui a pris la place de Dieu à notre place. Ça peut être l'alcool, cigarettes ou les jeux. Pour les jeunes, pour les messieurs, ça peut être les voitures ou la pornographie et d'autres. Voilà, toutes choses qui prennent plus de temps, qu'on passe plus de temps avec, plus d'argent, plus d'énergie, c'est un idole. Le deuxième domaine que Dieu l'a donné comme restriction, c'est que ça concerne le domaine physique, le corps, notre corps. Dans Lévitique 18, Dieu leur donne toute une liste des unions sexuelles interdites. Donc, je vous les résume ici. C'est interdit les incestes, donc c'est rapports sexuels entre des parents, de même parenté, les adultères, infidélité entre le couple, les débauches, les prostitutions, l'homosexualité, et la zoophilie. La zoophilie, c'est un rapport sexuel entre un être humain et un animal. Et, vous savez tous peut-être, le virus de sida est entré dans le monde à cause de cela. À cause d'un quelqu'un qui a eu rapport avec un singe, et ça, le virus qui n'était pas meurtrier chez les singes est devenu meurtrier chez les hommes. Voilà ce que c'est, ça amène. Voilà. Et Paul, il condamne sérieusement toute immoralité sexuelle. Il a vraiment dit dans 1 Corinthiens 6, 16 à 20, je vais vous lire d'abord le verset 19 et 20, je reviens au 16, 18. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 16 et 10, 17 et 18. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne font qu'un, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Dans Hébreux 11, 4, 13, 4, l'auteur y dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc vraiment, Dieu est sans... vraiment, sans, c'est certain, il interdit toutes ces unions que j'ai citées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de vérité relative. Parce que maintenant, nos contemporains utilisent ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît pour remettre en cause ce que Dieu a dit. Le troisième domaine, c'est le domaine social. Dieu leur a donné toute une conduite adéquate entre les hommes pour qu'il y ait de l'ordre et de la paix dans la société. C'est dans Lévitique 19. Dieu exige la pratique de la justice, de l'équité, de la vérité, de l'honnêteté, de compassion envers nos prochains, surtout les étrangers, parce que Dieu leur rappelle que vous étiez des étrangers en Égypte. De l'amour pour son prochain, savoir pardonner, et là, Dieu n'aime pas, ne tolère pas les mensonges, les vols, les haines, les rancunes, les vengeances, l'exploitation envers son prochain. Il y a d'autres textes, mais bon, je résume ici. Deuxième chapitre, je vois avec vous pourquoi Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. L'apôtre Pierre a donné deux raisons. Premier, c'est né de nouveau, nouvelle identité. Deuxième, c'est les choses de ce monde et sont vaines. Alors, né de nouveau. L'apôtre Pierre nous a dit que notre vie n'a pas été rachetée par des choses corruptibles comme de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux du Christ. C'est Jésus-Christ qui a payé de sa vie, de son sang, pour nous racheter du péché, de la mort, pour nous libérer de l'esclavage, de la mort et du péché, dont nous sommes libres. Dieu nous a sauvés, nous a libérés pour être libres, mais pas libres pour faire n'importe quoi. Comme l'apôtre Paul l'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne se divise pas. Donc, il ne faut pas faire de notre liberté, faire des choses complètes, comme les gens de ce monde qui le font. Ils ne font que ce qui leur plaît, leur désir et leur passion trompeur qui leur guide. C'est ce que dit Paul. Dieu nous a libérés, je pense, c'est pour le servir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai trouvé dans l'Exode, quand j'ai relu tous les chapitres de l'Exode. À chaque fois, Dieu ordonne à Moïse et à Aaron d'aller voir le Pharaon, lui demander de la permission de laisser partir son peuple d'Égypte. Il parle ainsi à Pharaon, « laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Ils ont répété cela plusieurs fois de suite. Et puis, enfin, ils ont dit aussi pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, c'est pareil. Nous sommes le nouveau peuple Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a libérés par le sang, la vie de son Fils. C'est pour que nous puissions le servir, l'obéir, pour le rendre gloire. Pas pour vivre notre gloire à nous-mêmes. Pierre nous a dit aussi que nous sommes nés, non pas d'une semence, corruptible, mais d'une semence incorruptible qui vient de la parole de Dieu, qui est donc l'évangile que les gens ont prêché, qu'ils ont entendu. La vie nouvelle, quand c'est nouvelle, ça doit être différent du vieux. Sinon, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de nouvelle. Donc, Pierre dit aux chrétiens de l'époque, premier siècle, je pense qu'il est pareil. Pour nous, c'est intemporel, cet ordre de ne plus vivre la vie qui n'a dépourvue de sang transmis par nos ancêtres. Paul cite dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc si on est né de nouveau, on devrait plus avoir un mode de vie, la conduite de vie d'ancien. On devrait avoir un mode de vie, une conduite qui est nouvelle, qui reflète la sainteté de notre Père. La vie est en Christ. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Galates 2, 20, Paul il a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, Christ, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, étant les enfants de Dieu, on doit imiter Dieu. Paul l'a dit dans Éphésiens 5 et 15, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants de Dieu. » Donc vraiment, en tant qu'enfant nouveau-né, enfant de Dieu, nous ne devons pas nous laisser influencer, formater par les pensées, la philosophie de ce monde, qui n'ont plus, je trouve, plus du tout de morale. Les gens font ce qui leur plaise, leur plaisir, leur désir, mais plutôt laisser l'Esprit Saint renouvelle notre intelligence chaque jour pour que nous puissions obéir à Dieu. Paul, il dit très bien dans Éphésiens 4, 17, 24, pourquoi on doit quitter cet ancien mode de vie pour vivre la sainteté. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devrez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangères à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, donc c'est nous aussi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité en Christ. La deuxième chose, Pierre l'a dit, il a pris le verset Ésaïe 40, 6 et 8 pour dire que l'homme est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. C'est pour nous dire que toutes les choses de ce monde, les richesses, l'argent ou la célébrité, le pouvoir, tout ça, sinon c'est que passagère, temporaire, peu important. Alors que tout ce qui appartient à Dieu, sa parole, son royaume, sa justice, subsiste éternellement. C'est pour cela que dans Jean 6, 24, Jésus a dit « Travaillez non pas pour la nourriture pour les simples, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Quand je pense à ça, je peux vous parler d'exemple de Alexandre le Grand. Il était un empereur très puissant. À l'âge de 30 ans, il a déjà conquis à l'époque, on peut dire, le monde. Mais il est mort au bout de 2-3 ans. Et quand il est mort, il a dit de sortir ses bras du cercueil. Donc pour dire au monde comme quoi il n'a rien amené quand il est mort. Donc il avait compris, mais c'était à la mort. C'est pareil, je pense à l'homme le plus connu en Chine, Yan Nimbok, Mao Zedong, c'est le chef des communistes. Il se croyait le roi des Chinois. Il a écrit un petit livre rouge. À l'époque, ça peut dire c'est une Bible pour les Chinois, tout le monde doit lire. Et j'imagine quand il était sur la place de Tiananmen, regarder toute la marée humaine, des jeunes, des ados qui portaient ça s'appelle des gardes de corps, des soldats rouges, parce qu'il y a quelque chose de rouge, qui dit longue vie à Mao, mais il est mort là. Donc vraiment, il se croyait Dieu. Il y avait un chant, je connaissais même Tong Fan Hong Tai Yang Sen. L'est devient rouge, le soleil se lève, et en Chine, il y a un Mao Zedong qui se lève. Donc il s'estime être le sauveur des Chinois. Voilà, donc ça a duré quelques années, mais bon, après, c'était. Donc ça, vraiment, la gloire humaine, c'est vraiment, ça peut pas durer. C'est ce que aussi dans Ecclésiaste, il a très bien compris, tout est du vent. Et ce que Jésus-Christ a dit aussi, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par la suite. Alors, comment vivre dans la sainteté? Est-ce facile de marcher sur ce chemin de sanctification? Pour moi, non. Je vais vous en raconter à quelques exemples. Moi, je suis chrétienne depuis 10 ans. Je pense que la sanctification, c'est un chemin en progression. On ne sera jamais parfait, seulement le jour qu'on sera avec Christ, là, on sera parfait. Mais on essaie d'aller vers la sainteté. Il y a des fois, j'ai fauté, des fois, j'ai fait bien. Je vous racontais les fois, j'ai fait. Une fois, j'ai fauté, j'ai fait bien. Je suis médecin de métier. Une fois, j'ai soigné une dame. Elle avait mal partout. Plusieurs fois déjà, je lui ai fait des radios et tout. Après, je lui ai donné un traitement. Elle ne veut jamais prendre le traitement. Elle ne veut pas faire de kiné, elle ne veut pas prendre le traitement. Je lui ai dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux vous faire? Du coup, elle m'a tellement exaspérée plusieurs fois, j'ai sorti cette phrase-là. Bah, si vous ne m'écoutez pas, ne venez plus me voir. Quand j'ai dit ça, après, je me suis dit, qu'est-ce que t'as dit ça? C'est pas... Du coup, après quelques minutes de silence, je suis allée vers elle et je me suis excusée. J'ai demandé pardon, je dis, je ne devrais pas vous dire cette phrase-là et c'est ma faute. Elle l'a accepté et après on est devenus amis. Et par la suite, j'ai pu lui parler évangile. Et quand j'étais au Carmoch, c'était elle qui était à Siem Reap avec son mari qui m'a accueilli pendant 5 jours. Merci Seigneur, parce que si j'aurais pas dit... si à l'époque j'aurais gardé ma face, ne s'est pas excusée, je crois que... Bon, ouais, ça c'est... Alors, une fois j'ai fait une faute, c'est récemment, il y a quelques mois, vous voyez, donc... J'ai soigné... j'aime pas trop les enfants. Je veux dire que les enfants, j'aime pas. Donc, les petits, hein, on va dire. Hein. Alors, il y a une maman, c'était... Même quand je suis revenue du Cambodge, me semble, une maman cambodgienne qui arrive avec sa fille, elle doit avoir 3-4 ans. Elle vient, sa mère m'a dit, elle a la fièvre, elle a mal à la gorge. Bon, moi, en tant que médecin, on va examiner avant de prescrire. On va commencer à regarder la gorge. Elle fait comme ça. Alors, on ne veut pas ouvrir la gorge. Donc, avec sa mère et moi, on essaie d'ouvrir la gorge. Et quand on fait ça, c'est facile à vous, vous êtes là, mais... Elle crie, elle braille de toutes ses forces. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je déteste les enfants qui braillent. Donc là, je ne peux pas regarder. Donc je dis à sa mère, si elle veut me laisser examiner, vous sortez, vous rentrez. Mais elle a attendu déjà une heure et demie, elle ne veut pas partir son traitement. Bon après, bon j'ai dit, je ne vois pas. Donc j'ai failli reçu un coup parce qu'elle dormait sur le coup, je regarde comme ça. Après, elle est assise sur le pied de sa mère, je dois regarder les tympans. Pareil, même scénario, ça braille. Alors, donc là, ça m'a tellement exaspérée, je ne sais pas d'où vient, j'ai perdu mon sang-froid, je commence à l'engueuler. Donc, j'engueulais, mais pendant le temps que j'engueulais, et c'est bizarre, je sentais un plaisir, quoi. C'est un peu, vous voyez, je sais que dans un sens, je dois pas faire ça, mais c'est comme si je suis en colère, c'est comme un volcan s'explose, après tu sens du bien, quoi. Bref, ça n'a pas duré quelques secondes. Après, je me suis calmée, je suis assise dans mon bureau. Après, c'est la mère qui m'a engueulée. Du coup, au départ, elle prenait ma défense. Elle disait sa fille n'est pas correcte. Et comme j'ai engueulé sa fille, elle dit, ouais, vous étiez docteur, elle est petite, pourquoi vous avez dit ça, machin et tout. Là, je me suis tue, mais je ne me suis pas excusée. Je me suis dit, c'est une garce, une petite garce. Je ne vais pas m'excuser. Alors elle m'a sorti ça, on viendra plus vous voir. Dans ma tête, je dis, c'est très bien, puis bon, non plus, donc c'est... Bon, mais je sais qu'au vu du Seigneur, je dois s'exculer. Mais là, la fois là, je me suis dit, bref, vous voyez, la sanctification, c'est pas assez simple de dire, mais de vivre, c'est vraiment... Une autre fois, j'avais une secrétaire remplaçante qui remplace ma secrétaire. Je sais pas pourquoi, je l'aimais pas trop. Et puis un jour, on a acheté un bureau, un meuble. Je l'ai bien mis. Après, je suis revenue dans la chambre et elle a changé de sens. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je n'aime pas trop quand on change l'emplacement de mes meubles. Puis elle m'a dit, oui, ça m'arrange mieux pour casser les dossiers. Mais moi, j'ai répondu sec, tout sec. Je lui ai dit, ça ne vous regarde pas, vous êtes là que pour quelque temps. Soit comme ça. Bon, après, bon, bof, j'ai vu sa visage comme ça. Moi, je suis allée dans mon bureau et après, quelques minutes après, je suis allée la voir. Je me suis excusée. Je lui ai dit, c'est vrai, je vous demande pardon, je ne sais pas, vous parlez comme ça et tout. Et n'empêche. Après, elle a parlé de ça à une autre secrétaire qui vient remplacer. Donc ça l'a beaucoup marqué, quoi. Donc c'est bien, quoi, que je me suis... Et vous voyez, chaque fois, des fois, j'ai fauté, des fois, donc je demande au Seigneur. Mais maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois, j'arrive. Hein, depuis, avec cette petite fille, j'ai fait une bêtise pas très... J'arrive maintenant. J'arrive à ne plus, même si... Mais les adultes, j'arrive mieux parce que les adultes, des fois, les personnes âgées, ils mettent du temps, surtout en hiver, pour déshabiller, pour tout ça. Et moi, des fois, je suis pressée. Ou sinon, les confrères, ils te demandent de prescrire. Et après, ils regardent pour vérifier si tu as bien prescrit tout ça. Mais moi, avec les adultes, j'arrive parce que pendant qu'ils m'énervent, dans ma tête, je dis, Seigneur, bénis-le, et tout, ça me calme. Voilà, ça, j'ai trouvé ma recette, mais pour les enfants, j'ai pas trouvé encore, mais bon, bref. Mais maintenant, je sais, je me calme. Je me suis dit, même si elle pleure, je la laisse pleurer, quitte à ne pas l'examiner. Parce qu'il y a des enfants, ils sont coriaces. Quand ils sont sur le lit, comme ça, quand j'examine, je me prends du coup, hein. Puis si, je confirme. C'est dangereux, hein, des fois, d'être médecin. Bref. Voilà. Bon, on revient à... Alors, pour être vraiment, vivre une vie sainte, c'est pas seulement quand vous venez dimanche à l'église, c'est tous les jours, c'est dans toutes les sphères. Quand on est chez nous, avec les parents, les enfants, tout, au public, on prend les moyens de transport, partout, quoi. Vraiment, Dieu nous demande, Pierre, il a dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Pas seulement une. Donc j'ai pensé, surtout, je pense dans ce domaine-là, tout le monde aura du mal à être sain quand tu prends le volant. N'est-ce pas? Est-ce que chacun de vous respecte bien la limitation des vitesses? Alors, je réponds non, il y a 3 ans. Parce qu'en un mois de temps, j'ai reçu 2 PV. Pourtant, je dis, Seigneur, je roulais 56 km à la place de 50. En fait, j'ai eu 2 PV en un mois. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, merci. Tu m'as donné 2 points de moins. Tu m'as enlevé 2 points de moins, mais je fais vraiment attention. Mais à partir de là, je respecte scrupuleusement vraiment les vitesses. Mais parfois, c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes pareil. Moi, j'ai l'impression qu'on est en volant. On est un peu contaminé par la conduite des autres qui sont tellement pressés, qui sont agressifs, tellement... Moi, j'avoue que j'ai dû prier à chaque fois, surtout quand je vais à Paris, avec tous les bouchons, tous les... Vraiment, franchement, je trouve qu'en voiture, il n'est pas facile d'être... avoir un code de sainteté, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, je suis pas la seule à monter. Pareil, quand vous faites des courses, si le vendeur se trompe en notre faveur, est-ce qu'on va lui dire, ah, vous êtes trompé, c'est plus cher, je dois payer plus cher. On dit, tant pis, c'est elle qui est faute. Hein? Beaucoup de choses comme ça. Quand je ramasse un portefeuille par terre, il y a beaucoup de liquides. Est-ce que je garde les liquides et je donne que les papiers au commissariat? Puisque ni vu ni connu, personne ne sait. Puis peut-être certains commissariats, c'est les policiers qui... Je ne sais pas. Pareil que... Bref, vous voyez, tout ça, c'est un moment... Pour être sain dans tous les détails, tout, c'est vraiment pas facile. Mais si on a... Moi, je pense que j'apprends à petit, mais si je décide de dire, Seigneur, j'arrive pas, aide-moi, donc voilà, quoi, ça on peut arriver. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire ça tout seul, par notre force, vous avez bien vu. Moi, je peux pas, par ma volonté, par ma force, par mes efforts. Dieu ne nous demande pas d'être des superman ou des superwoman. Dieu veut qu'on lui demande de l'aide. Donc, je pense à vraiment obéissant à sa volonté, à sa parole, reconnaître notre impuissance, notre limite et notre faiblesse, et humilions-nous devant lui demander de l'aide. Et Dieu nous aide avec les trois personnes de la Trinité. Alors, Dieu le Père, il nous a dit dans Jérémie 31-33, Laurent, il est parti. Mais voici l'alliance que vous ferez avec la maison d'Israël. Après ces jours, cela dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc là, Dieu a prophétisé à Jérémie comme quoi il va déjà mettre ses lois dans notre cœur, qu'on peut déjà connaître. Et dans Ézéchiel 36, 25 à 27, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ton Dieu, il est généreux, il a tout préparé. Il nous donne un cœur nouveau, il nous donne un esprit nouveau. Donc c'est à nous d'accepter, d'obéir. Il a tout préparé. Nous avons dû ça vraiment à appliquer. Dans Philippiens 2, 13, je pense que Maï aime bien ce verset-là. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et Jésus, dans Jean 17, 17, la veille quand il devait partir rejoindre son père, il a prié pour ses disciples et pour les autres disciples à venir. Il a dit cette phrase, « Consacrez-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Donc c'est toujours la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est la vérité. La deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous a exhorté dans le dernier verset du chapitre 2, dans le deuxième verset, qu'il demande aux enfants nouveau-nés aspirer au lait spirituel pur de la parole. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste, en voyant arriver Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Donc Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour enlever le péché dans le monde et enlever le péché en nous. C'est Jésus qui nous aide à être sans péché. Et dans Jean 6, 63, Jésus il a dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, Paul l'a dit dans Éphésiens 4, 22 à 23, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Donc, Paul nous demande de nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Dans Éphésiens 5, 18, Paul nous demande de ne pas être enivré par le vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et j'ai trouvé un verset qui là-dedans, on trouve vraiment l'œuvre de la Trinité. C'est dans 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc vraiment, là-dedans, on trouve la Trinité dedans. Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit et de notre Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, Paul a écrit cette épître pour vraiment exhorter les chrétiens du 1er siècle à vivre dans la vie une sainteté. Mais c'est valable pour tous les chrétiens, puisque nous sommes tous nés de nouveau. Et c'est vrai que le monde avant, les Romains menaient aussi une ville immorale, décadente. C'est ça qui a mené à la chute de l'Empire romain. Donc nous qui sommes dans un monde, comme dit Paul, pervers et corrompu, nous sommes des enfants nouveau-nés de Dieu. Nous devons vraiment obéir à notre Père, à l'appel, vraiment vivre la sainteté. Je sais que c'est pas facile. Nous avons vu tout à l'heure, vraiment, grâce à l'aide du Père, de son Fils et du Saint-Esprit, nous pouvons arriver. Donc vraiment, pour conclure, Jésus-Christ est notre modèle. Donc la sanctification, c'est vraiment un processus à long terme. Engageons-nous vraiment ensemble à obéir à l'appel de Dieu vers la sanctification et vraiment il nous rendra capable d'y arriver pour que nous puissions attirer les autres vers Dieu. Parce que nous sommes dans un monde tellement perdu, tout change. Il me semble, j'ai entendu un frère, une jeune sœur qui... Elle a attiré l'attention des... Oui, c'est une sœur. Une jeune sœur, à peu près 16 ans, 15 ans. Les copines de sa classe lui demandaient pourquoi tu ne sors pas avec un mec. Et elle a dit, je suis chrétienne et je ne veux pas avoir des relations, tout ça, avec un autre avant... voilà. Et du coup, ça, on sait qu'elle est chrétienne, pas rien que ça. Donc c'est vraiment bien quoi. Puis moi parfois dans mon exercice, des fois des malades me demandent de faire des choses, pour moi c'est tricher. Mais maintenant je réponds, je suis chrétien, je ne peux pas tricher. Ça me donne vraiment une bonne réponse, et ça leur cloue le bec quoi. Oui, parce que souvent il me dit, personne, ni vie ni connu, il n'y a que vous et moi. Mais je dis, il y a là-haut, là, le patron là-haut, il me voit. Bah oui, parce que je ne sais pas, peut-être vous ne faites pas, mais les Asiatiques, ils ont la CMU. Donc, ils viennent avec la CMU, mais ils disent que, en fait, il veut prescrire pour quelqu'un d'autre, mais utiliser sa CMU à lui. Mais je dis, ça ne marche pas. On t'a donné pour toi, mais pas pour l'autre. Mais dis, c'est rien, c'est une prescription. Mais moi, je le dis, je suis chrétien, je ne peux pas tricher. Voilà, donc vraiment, c'est, je sais que je lui ai dit, Dieu le sait. Ou bien autre chose, quoi. Mais vraiment, par notre conduite, on peut montrer aux autres qui ne connaissent pas Dieu pour les attirer à Dieu. C'est pareil pour cette virginité avant le mariage. Maintenant, même moi, je suis choquée quand à chaque fois, j'ai vu des jeunes de 14 ans qui viennent me voir pour la pilule. Moi, je regarde comme ça, et puis... Mais bref, quoi, mais c'est franchement... Mais c'est vrai, les parents me disent, ils préfèrent qu'ils prennent la pilule que d'être enceinte. Mais moi, j'ai une autre solution à leur donner, c'est rester... Reste gardé jusqu'au mariage. Bref, c'est ça, quoi. Bon, bref, voilà. Bon, alors que nous, on est... je pense que... Oui. On est les enfants de Dieu, on devrait vraiment... Jésus nous a dit d'être la lumière et le sel. Si on n'est pas différent, on ne peut pas savoir. Il me semble, j'ai entendu aussi, il y a une sœur qui a fait ce témoignage. Elle travaille dans la comptabilité. Ah, y a qui? Et son patron lui a demandé de tricher dans la comptabilité pour en faveur de l'entreprise. Elle a refusé. Elle a prié quand même. Elle a les luttes. Elle se demandait si elle refuse, elle va pas perdre son emploi. Mais finalement, elle est allée voir son patron. Lui a dit qu'elle ne veut pas, elle peut pas. Elle est chrétienne. Mais elle n'a pas été licenciée. Il faut vraiment avoir le courage. Je pense que c'est dur. On va à l'encontre des courants. Mais souvent, les gens, ils pensent comme ça. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils disent, tout le monde triche, pourquoi pas moi? Hein? C'est pareil avec le fisc. Tout le monde triche, pourquoi pas moi? Même l'État, il triche. Mais ça, c'est pas la mentalité ni la pensée. Donc, ne pas laisser formater ou influencer par vraiment la pensée du monde. C'est pour ça que Dieu nous demande de méditer sa parole. Si on est toujours dans sa parole, dans sa pensée, non, on a chanté tout à l'heure Christ en moi, donc laissez le Christ grandir, prend plus de place, et pas le moi qui prend la place, donc là on peut vraiment arriver, quoi. Ouais, donc c'est vraiment pas facile. Donc, je vous encourage tous avec moi. Je suis très contente. J'étais la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais au forum d'évangélisation avec Clément. Il y a une évangéliste américaine. La dernière prédication, vraiment m'a parlé, justement, elle a parlé de la sainteté de Dieu. Elle a dit que franchement, c'est pas facile, mais elle a donné, on va dire, une recette et je l'ai appliquée. J'ai partagé avec vous, elle a dit Christ en vous, c'est ça, Christ en vous. Elle a dit avant que tu mets tes pieds sur par terre, tu demandes au Seigneur de prendre toute la place et que toute ta journée tu vis sous sa direction. Et là tu peux beaucoup plus facilement aller là-dedans. Et c'est vrai, lundi matin, avant que je pose mes pieds par terre, j'ai fait cette prière. Et en vrai, c'est beaucoup plus cool. Je peux garder mon sang-froid et je peux vraiment... parfois, je vais être fâchée ou énervée et je crois que Christ a un peu grandi. Et là, Eliane, elle a un peu s'écraser, donc c'est mieux, quoi. Voilà. Prions ensemble. Abba Père, merci d'avoir sacrifié la vie de ton fils, ton sang, pour nous racheter, pour nous purifier, pour nous libérer du péché, Seigneur. Et merci qu'on soit libre, mais nous devons vraiment être libres pour te servir, pour t'obéir. Et Père, merci pour vraiment l'aide qui vient de ta part, parce que tu l'as dit dans la Bible, tu nous as dit que ce que nous sommes, nous le devons à toi, par notre union avec le Christ qui nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, que nous les accomplissons. Voilà, Seigneur, pour ce début d'année 2014, je veux vraiment m'engager avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, de marcher sur ce chemin de la sanctification pour que par notre conduite en acte et en parole, nous puissions attirer les autres personnes qui ne connaissent pas à venir vers toi, à te connaître et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.